Alexandre Rosset.
Bonsoir, mieux connaître les dangers naturels et les métiers qui y sont liés. C'est l'objectif d'une exposition proposée par la section Jura et Jura Bernois de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes. La SIA vise en particulier les jeunes en recherche de formation. Le FC Brandruy s'est incliné avec les honneurs en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Les footballeurs brandruitains de 2e ligue ont été battus 3-0 cet après-midi par Chiasso, pensionnaire de Promotion League. On retrouvera Émilie Mumenthaler sur place dans le point sport. La semaine va commencer comme elle s'est terminée du côté du ciel. Le temps s'annonce encore gris et pluvieux demain. Le mercure ne dépassera pas 15 degrés en plaine et 11 sur les hauteurs. Découvrir des métiers par le biais d'un thème qui nous concerne toutes et tous. La section Jura et Jura Bernois de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes propose une exposition sur les dangers naturels et les professions qui y sont liées. Objectif, susciter de l'intérêt auprès des jeunes qui cherchent une formation. L'exposition est à découvrir depuis ce week-end et jusqu'au 8 octobre à la Halle des Expositions à Delémont. Le vice-président de la SIA Jura Jura Bernois et initiateur du projet nous explique ce qui attend le public. Federico Ferrario.
On découvre tous les dangers naturels, on a des posts qui expliquent le danger, il y a des films qui l'expliquent et puis il y a aussi des maquettes avec lesquelles on peut apprendre un peu plus, on peut voir comment le danger se comporte. Et puis une fois qu'on a fait le tour de tous les différents dangers, on arrive à une section conclusion où on présente les différents métiers qui sont en lien avec les dangers naturels et il y a la possibilité de se renseigner auprès de chaque profession pour savoir comment on peut devenir ingénieur, comment on peut devenir architecte, selon quel cursus, dans quel type d'école, etc.
L'exposition Dangers naturels, même pas peur, est à visiter jusqu'au 8 octobre à Delémont. Elle se déplacera ensuite dans toute la Suisse romande. Le marché bio de Seignolégier a eu droit à une météo contrastée pour son retour. La journée d'hier s'est déroulée sous un soleil radieux, alors que la pluie et le froid étaient au rendez-vous ce dimanche. Les organisateurs tirent toutefois un bilan très positif de cette 33e édition qui s'est déroulée entièrement à l'extérieur, sans certificat Covid. Ils estiment avoir accueilli près de 8000 personnes sur l'ensemble du week-end. Les exposants ont fait de bonnes affaires, selon Lina Dubier, l'une des responsables. À Corban, le bilan est aussi très positif pour le Cerf Festival. Les concerts de musique folklorique ont réuni plus de 2000 personnes hier soir et aujourd'hui. Le président du comité d'organisation, Michel Darbelay, a senti de la part du public une envie de retrouver une certaine ambiance et une vie sociale. Et pour rappel, la manifestation se déroulait avec le pass sanitaire. Et puis à Bienne, cette fois, 13 000 personnes ont pris part au Festival du film français d'Helvétie. Cette 17e édition se termine ce soir sur une belle note. Le FFFH accueille plusieurs grands noms du cinéma français à l'image de Nathalie Baye ou encore de Bernard Campan. Le festival a proposé 49 films de genres variés et a également pu présenter 28 grandes premières. Alors que le rideau va tomber dans quelques heures sur cette édition 2021, nous avons demandé au directeur du Festival du film français d'Helvétie de tirer un bilan de ce 17e FFFH, Christian Kellenberger.
Bah écoutez, un bilan extraordinaire, un bilan sensationnel sur deux aspects, l'aspect émotionnel, l'aspect des chiffres. Déjà, j'aimerais parler de l'aspect émotionnel. C'est vrai que de voir les salles combles, de retrouver des sourires, de retrouver des visages non masqués dans une salle de 400 places, c'est magnifique. Et puis, d'un point de vue plus long, on annonce 13 000 festivaliers dans les salles ces quelques jours et ça représente tout de même 20% d'affluence en plus en rapport à l'année dernière et c'est un résultat extrêmement, extrêmement réjouissant.
Quels ont été les grands moments pour vous de cette édition 2021 ?
Il y en a eu plusieurs. Je me demande justement s'il y a un lien avec la pandémie ou pas, mais j'ai trouvé que cette année, il y avait une réactivité du public qui était énorme. On a eu des moments très forts. On a eu beaucoup de standing ovation après les films, chose qui n'arrivait pas souvent les années précédentes. Et donc, pour moi, je me rappelle avec beaucoup de bonheur de la présentation du film de Pascal Elbé, On est fait pour s'entendre. J'ai aussi beaucoup d'émotions avec Haute Couture, Nathalie Baye, qui nous a fait l'amitié de venir. Et puis, évidemment, cette magnifique soirée de presse avec Alexandre Jolien et Bernard Campan. On a fait une heure de podium de discussion après la projection. Toutes les salles étaient combles, tout le monde est resté. C'était vraiment une communion vraiment pour le cinéma, pour l'art du cinéma, c'est merveilleux.
Christian Kellenberger, directeur du Festival du film français d'Helvétie, qui était au téléphone de Séverine Boy. Une centaine de familles paysannes ont ouvert leurs portes ce dimanche en Suisse. La population a notamment pu découvrir les animaux et les techniques de travail des agriculteurs. Dans la région, ce sont trois exploitations du Bémont qui ont accueilli le public aujourd'hui à l'initiative d'AgriJura. Il s'appelle Wolby et explore les fonds du lac de Bienne. Quatre étudiants de la haute école spécialisée bernoise ont conçu un petit bateau sous l'impulsion de leur professeur. Un projet décliné dans le cadre de travaux de bachelor. Stephen Kerley est l'un de ses concepteurs. Il nous décrit les caractéristiques de cet engin.
Ce bateau, il fait à peu près 1,80 m sur 60 cm de large. Sur 20 cm de hauteur, il a les couleurs de la BFH, donc un jaune assez distinctif. La coque, enfin le dessous du bateau, il est gris, donc un gris de la BFH également.
Ce bateau, comment il s'utilise ?
Alors, il peut seulement être utilisé avec le programme que nous avons écrit et il se laisse commander par un contrôleur de PlayStation 4 qui est relié à un ordinateur et connecté au réseau 4G.
Ce bateau, en fin de compte, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est quoi son objectif ?
Alors, pour l'instant, Wolby, donc, qui est le nom de notre bateau, peut être commandé à distance depuis le centre de contrôle de la BFH. Ce bateau, il est capable d'exploiter les profondeurs du lac de Bienne à l'aide de nombreux capteurs. Il mesure différents paramètres tels que la température de l'eau, la profondeur et la position GPS. Et il est également muni de deux caméras placées au-dessus et au-dessous du bateau. Et il est capable de générer sa propre énergie grâce au panneau solaire qui est fixé sur le bateau. L'objectif de Wolby, il est d'exploiter le lac de Bienne. Avec les données du sonar et du GPS, il est possible de cartographier le lac. Et avec les images du sonar et de la caméra sous le bateau, nous pouvons localiser des épaves et des déchets dans les profondeurs.
Et à noter que ce projet va être repris par d'autres étudiants de la Haute École Spécialisée Bernoise. Ces derniers devront encore améliorer le projet et notamment se pencher sur son autonomie. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble ce bateau, rendez-vous sur notre site rfj.ch. La Suisse sera vraisemblablement élue en juin prochain au Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant de l'ONU. Notre pays est en effet le seul candidat avec Malte pour les deux sièges qui doivent être repourvus pour une durée de 2 ans. Le fait que la Suisse devienne membre d'un organe qui peut lancer des opérations militaires ne doit pas faire craindre pour sa neutralité. Selon le conseiller fédéral Ignazio Cassis, qui se trouve à New York, avec le président de la Confédération Guy Parmelin pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.
Sport.
L'aventure du FC Porrentruy en Coupe de Suisse est terminée, Théoria.
Oui, les footballeurs de deuxième ligue se sont inclinés en 16e de finale contre Chiasso cet après-midi au stade du tirage. Les Tessinois, qui militent en Promotion League, soit 3 ligues au-dessus, l'ont emporté 3-0. Mais les Ajoulots ont vendu chèrement leur peau. On retrouve Émilie Mumenthaler qui a suivi ce match à Porrentruy.
Oui, le FC Porrentruy a tenu la dragée haute à son adversaire. Il a tenu le 0-0 jusqu'à la 53e. Certes, Chiasso a dominé la première mi-temps, mais les Tessinois ne sont jamais vraiment parvenus à mettre le feu dans la maison à Joulotte, à part peut-être sur 2 actions, à la 19e et à la 41e. Les Jurassiens n'ont pour leur part jamais pu approcher les 16 mètres adverses. Valentin André aurait pu se créer une belle possibilité juste avant le T, mais l'attaquant Breutrutin a été coupé dans son élan alors qu'il semblait bien parti pour son aller de loin affronter seul le gardien adverse. Chiasso a mis plus de pression au retour des vestiaires. Alors que le FCP venait de se sortir d'un moment chaud, les visiteurs ont pris la défense de vitesse pour créer le surnombre. Oscar Correa a pris le temps de poser le pied sur le ballon et d'enrouler sa frappe ratère depuis l'orée des 16 mètres pour ouvrir le score. Fabrice Moret a encore profité de largesse défensive locale pour signer un doublé dans les 10 dernières minutes de jeu. Même si les Rouges et Noirs avaient très bien défendu jusque-là, ils n'ont par contre pas réussi à se montrer dangereux. Mais c'est le réalisme qui a payé aujourd'hui, car les Tessinois n'ont pas fait d'étincelles. Un résultat qui doit donc laisser plus de fierté que de regrets au FC Porrentruy.
Merci Émilie. Et vous pourrez retrouver des réactions sur cette rencontre un peu plus tard dans la soirée sur rfj.ch. Dans les autres rencontres des 16e de finale de la Coupe de Suisse, Bâle a dominé Rorschach, une formation de 2e ligue interrégionale, 3-0. Saint-Gall a battu Chénois militant en 1ère ligue 7-2. Et Young Boys n'a pas laissé sa chance à Illyria. Les Bernois ont battu l'équipe de 2e ligue 7-1. Deux francs montagnards s'imposent sur leur terre au tour des sommets. Jérémy Brechbühl a remporté cette 4e manche du trophée jurassien de VTT aujourd'hui au Noirmont. Le cycliste des Breleux a bouclé le tracé et de 23 km pour un peu plus de 800 mètres de dénivelé positif en 1h, 14 minutes et 37 secondes. Il a devancé le Français Quentin Gardet de 33 secondes et Andy Clay de Métambert de 37 secondes. Marianne Froidevaux, également habitante des Breleux, a été la meilleure côté féminin. Elle a terminé en 1h, 36 minutes et 57 secondes, devançant Marine Grocia de Basse-Cour de 16 secondes et Katia Montani de Péry d'un peu plus de 3 minutes. Les résultats complets de cette 9e édition du Tour des 100 mètres sont à retrouver sur notre site internet. Toujours en vélo mais de route, Philippe Ogana conserve son titre de champion du monde de contre-la-montre. L'Italien a devancé les Belges Wout van Aert de 6 secondes et Remco Evenepoel de 44 secondes cet après-midi à Bruges. Le Turgovien Stefan Küng, champion d'Europe de la spécialité, s'est classé 5e. L'autre Turgovien Stefan Bisseger a pris la 7e place. Un ancien champion du monde va d'ailleurs mettre un terme à sa carrière après ces mondiaux. Tony Martin va ranger son vélo. Son équipe de la Jumbo-Visma l'a annoncé aujourd'hui. L'Allemand de 36 ans a notamment été titré 4 fois en contre-la-montre. Il a aussi remporté 5 étapes du Tour de France. Il a dû abandonner lors de la Grande Boucle cette année. Tony Martin avait été victime de la pancarte brandie par une supportrice lors de la première étape. Stéphane Frossard termine une seule des deux courses en Catalogne. Le pilote à Julot a disputé la 8e manche du championnat du monde Supersport 600 à Barcelone. Hier, il a fini 20e de la première manche. Aujourd'hui, sa boîte à vitesse s'est cassée et il a abandonné après 4 tours. Il recule au 24e rang au classement général avec toujours 10 points au compteur. Thomas Lüthi réalise son 2e meilleur résultat de la saison en Moto2. Le pilote bernois a terminé 11e du Grand Prix de Saint-Marin à Misano cet après-midi. Il n'a fait qu'une fois mieux cette année avec une 9e place. La course a été remportée par l'Espagnol Raúl Fernández. En catégorie reine, un Italien s'est imposé. Francesco Bagnaia a devancé le leader du classement général, le Français Fabio Quartararo et l'Italien Ennea Bastianini. Et en moto E, Dominique Egerter manque le titre. Le Bernois a pourtant franchi la ligne en premier lors de ce Grand Prix de Saint-Marin, mais il a été pénalisé de 38 secondes pour un accrochage dans le dernier tour. Il a ainsi été relégué à la 12e place. Dominique Egerter aurait été sacré en cas de victoire. Et le maintien est acquis pour les clubs jurassiens d'athlétisme. La FSG Hall et la FSG Basse-Cour ont participé au championnat de Suisse d'interclub à Ibar hier. En Ligue C, les hommes de la formation à Joulotte ont pris la 2e place du concours. Ceux du club Vadé ont terminé 6e. Les dames de la FSJ Basse-Cour se sont également maintenues grâce à leur 6e rang. Les résultats sont en lien sur notre site internet. C'est la fin de ce point sport. Je vous souhaite une belle soirée.